Alors, Richard a bien terminé la semaine passée avec le concept de la réconciliation. Lorsqu'on regarde les chapitres, partant à peu près chapitre 39 jusqu'à 50, c'est une histoire de réconciliation. On connaît la vie familiale, tout le monde en a. On a des différences d'opinion, même des disputes. On a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie et Joseph n'est pas à l'épreuve de ses affaires. Il lui arrive lui aussi. Mais Dieu nous a donné, comme enfants de Dieu, un ministère de réconciliation. On a parlé de ça. L'idée, c'est qu'on doit se réconcilier, premièrement, avec Dieu. Mais par défaut, si on a une réconciliation avec Dieu, on a aussi l'obligation d'avoir une réconciliation entre nous, entre frères et sœurs, entre hommes, entre hommes et femmes, femmes et femmes, la famille au complet. Moi, j'ai été béni dans un foyer chrétien où on étudiait la parole de Dieu. Et puis, on était cinq enfants, je vous dis tout de suite, on était cinq enfants avec cinq opinions complètement différentes. Même aujourd'hui, on a toutes sortes de débats qu'on a. Mais une des choses qui nous a jamais laissé, c'est un, la responsabilité qu'on a envers l'un et l'autre. Et ça, c'est important de le constater et de vivre en conséquence. Et on va voir Joseph avec justement cette responsabilité ce matin. Alors, une des choses que Richard a mentionné la semaine passée, on en a discuté auparavant, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il y a un cheminement. C'est pas un acte, un moment dans le temps qui a tout déclenché. C'est pas un acte dans le temps qui a tout réconcilié, mais plutôt plusieurs événements qui sont arrivés dans plusieurs vies. Il y en a une que j'ai mis de côté, puis on va revenir avec dans à peu près 3 semaines, 4 semaines. On va revenir regarder un peu qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de Judas. Judas, c'est un caractère très important dans la parole de Dieu. Et justement, c'est un cheminement qui arrive pas à la porte. Je ne sais pas vous autres si vous avez le privilège ou peut-être le temps, mais de regarder votre âge, il y en a qui en a plus que d'autres, et de regarder en arrière et de voir toutes les choses que Dieu a faites dans vos vies jusqu'à ce moment ici, pour que vous soyez rendus ici, 4902, boulevard Saint-Charles, en train d'écouter, d'aller, en train de regarder les Écritures. Mais pour arriver ici, là, il y a un cheminement. C'est pas arrivé automatique. C'est venu avec plusieurs événements. Et une des choses qu'on apprend à travers ça, et d'ailleurs, pour nous qui préparons ces séries ici, Roy, Yvon, Richard, moi-même, ça prend la patience. Parce que je me connais mes frères, et on veut, nous autres, arriver, on veut aboutir à la fin de l'histoire, ça presse, mais on n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de petits détails, ça prend patience. Et dans la vraie vie, la vie qu'on a chacun de nous, je suis sûr que vous êtes capable de regarder en arrière et de dire, oui, c'est vrai, il a fallu que j'attends pour ceci, j'attends pour d'autres choses. Et l'expérience que Dieu nous donne, c'est pas tout d'un coup. Et une des choses qui nous aide aussi, c'est de regarder de plus en plus qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est un des éléments que moi, je veux ressortir aujourd'hui, la semaine prochaine. Alors, Dieu est en train de faire des choses en arrière. C'est lui qui est en train d'orchestrer bien des choses. Et lorsqu'on regarde la vie de Joseph, on voit comment est-ce que c'est une montagne russe, n'est-ce pas? On a vu des choses merveilleuses, le chouchou de son père, comment est-ce qu'il a été aimé, comment est-ce qu'il a été traité. Il avait le fameux manteau, il avait toutes sortes de choses de ce que son père lui donnait et ses frères étaient... ils étaient jaloux. Et la jalousie a augmenté avec les différentes choses que Joseph a faites. Il a raconté tous les bobos de ses frères à son père. C'était un qui a vraiment dévoilé toutes ces choses-là. Et en plus, Il avait ses fameux rêves. Il avait 17 ans et il avait ses rêves. Et les rêves étaient quand même des choses spéciales, merveilleuses, mais pour ses frères, c'était quoi? C'était inhéritant. Ça les a poussés. Tu penses que nous autres, on va se mettre à genoux devant toi? Bonne chance, hein? Alors, les frères étaient remplis de jalousie et éventuellement de la haine. À un tel point, vous vous souvenez très bien qu'ils ont dit, on va s'en occuper de lui. On va se débarrasser de lui. On va lui tuer. Ils avaient un plan pour lui enlever la vie. Et en dernière minute, Judas avait une autre idée. Judas a proposé, qu'est-ce que tu penses si on les vend comme esclaves? Et la question que je vous pose, une petite question piège, pensez-vous que Judas faisait ça parce qu'il voulait sauver la vie de son frère? C'est gentil de penser ça.
Mais, pour moi, oui, les deux choses.
Les deux, hein? L'argent et la vie.
On va prendre un coup d'argent, on va pas les tuer, comme ça, papa, on va le dire, papa, il est mort. Mais il n'est pas mort.
Ah, on ne l'a pas fait.
Aussi, le Seigneur peut-être a parlé à Judas dans son corps. Il ne peut pas le tuer.
Et je soulève ce point ici parce que même plus tard dans la vie, et on va le voir, ça vient encore jouer dans l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qui arrête. Ce que Tito a décrit, là, c'est exactement ça. Quand tu y penses, le fait qu'il n'a pas été tué, mais eux autres, ils ont porté ça dans leur cœur. Ils savent très bien qu'est-ce qui est arrivé. Hein, les 10 autres étaient là. Ils ont tout vu. Ils ont tout participé. Et c'est très important de comprendre cette situation.
On devrait tirer une leçon de ça. Il n'était pas rancunier non plus. Joseph n'était pas rancunier vis-à-vis de ses frères.
Garde la question, Jacques, parce que tantôt, on va revenir justement et on va se questionner. Est-ce qu'il était vraiment plein de rancune? Est-ce qu'il cherchait la vengeance? Il y a des éléments qu'on pense comme toi. On dit... C'est vrai, Joseph était tranquille à travers tout ça. Il a gardé paisible. Mais plus loin que ses frères vont dire quoi? Hein? Il nous a supplié. Joseph n'est pas parti à rien faire à, comme esclave. Je suis sûr qu'il crie à toute tête à ses frères.
Aidez-moi.
Et en plus, il se trouve à être quoi? Il se trouve à être en Égypte esclave. Je suis sûr que dans son cœur, il y a des choses, des idées qui ont trotté. Et il faut dire bien, comme on a dit initialement, patience. Il y a tellement de choses qui sont arrivées dans la vie de Joseph, et ça a pris du temps. C'est pas des choses qui sont arrivées instantanément, et puis ensuite c'est tout fini. Non, non. Ça a continué. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était un esclave, il a travaillé fort pour son maître, mais il a été récompensé avec quoi? La prison.
La prison,
oui. Yeah. Et puis, je suis sûr, en prison, il y avait encore plus de temps à penser. Hein? Et puis là, à ce moment-là, je me demande s'il était rancunier. S'il y avait, on va le voir tantôt.
Il a une certaine colère, mais je pense que Dieu fera justice. Il a cru à la justice de Dieu.
Yeah. Et chez nous, on avait un débat. C'était une question sur Joseph. Est-ce que Joseph avait des talents différents, spéciaux? Qu'est-ce que vous en pensez?
Dieu a donné les talents.
Dieu lui a donné des talents. C'est justement ce qu'on pense, nous autres ici. Dieu lui a donné des capacités spéciales. Puis si on commence à faire la liste, ils sont assez impressionnants, non? Il est esclave chez Potiphar, et Potiphar, il aime tellement la façon que Dieu travaille avec lui. C'est comme ça que les Écritures démontrent, Dieu est avec lui. Qu'il donne plus de responsabilités à un point qu'il est rendu en charge de toute la maison. Les habiletés d'administration, les habiletés de gérer, c'est pas tout le monde qui les a. Vous savez comme moi, hein, vous n'avez qu'à rentrer chez vous puis regarder un peu le désordre puis dire, ouais, c'est pas mon talent à moi.
J'ai une question pour toi.
Quoi?
Pourquoi lui, il savait qu'il avait il faisait un bon travail dans la maison, pourquoi il n'a pas mis comme... quelqu'un d'autre avec lui pour continuer à la maison avant de le mettre à la prison.
Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé.
Tu me comprends?
Puis en prison, qu'est-ce qui arrive?
C'est lui qui est en charge aussi de la
prison. Encore en charge. Et là, la question, c'est que plus loin, on va voir dans le passage, que ça a l'air que les Égyptiens pensent que Joseph a une capacité de magicien. Il est capable de deviner des choses. Les rêves, ce sont des bons exemples. Pourtant, à chaque fois, Jacob va dire, c'est Dieu qui donne les rêves. C'est Dieu qui donne l'explication pour les rêves. Il donne gloire à Dieu. C'est pas lui qui prend la gloire. C'est pas lui qui dit que c'est lui qui a la capacité. Et ça nous mène à une autre chose. Souvent, on voit quelqu'un qui a vraiment un sens de... comment je peux dire? Quelqu'un qui peut discerner les choses. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont capables de saisir les caractères de quelqu'un très rapidement? C'est une des choses que ma patronne et moi, on juge souvent quand on embauche quelqu'un. Comment vite est-ce que ça va nous prendre? Comment tant que ça va nous apprendre à maîtriser? Où est-ce que cette personne se trouve? Quelles sont ses capacités? Quelles sont ses faiblesses? Comment on va... Et souvent, on sait que le mieux, c'est aussitôt qu'on sait, aussitôt qu'on peut agir. Aussitôt qu'on sait, on est capable de trouver des façons. Et c'est la même chose avec Joseph. Joseph semble avoir justement ses capacités. Il est capable de juger le monde. Et justement, les chapitres qu'on regarde, chapitres 44 et 45 de Genèse, on va voir Joseph en action. Il est en train de faire quelque chose avec ses frères. Initialement, quand je l'ai lu, quand je lis ce passage, je me demande, c'est bien, est-ce qu'il est en train de chercher la vengeance sur ses frères? Les faire passer les épreuves comme ils passent, ou est-ce que c'est simplement qu'ils essaient de discerner? Ils ont eu un changement, eux autres?
Il ne voulait pas faire venir sa famille, plutôt.
Non. Il aurait pu le dire tout de suite, mais ce n'est pas ça qu'il fait. Il leur donne la nourriture, ils mettent l'argent dans leur sac, ils les envoient chez eux, pananana. Charles nous a tout compté ça la semaine passée. Et ils reviennent, malgré eux-mêmes, ils sont obligés d'amener Benjamin s'ils veulent libérer Simeon, quand Simeon est en prison. Ils arrivent hein, et ils sont reçus comme des visiteurs royaux, assez spécial ça. Et tous ces éléments-là, c'est Joseph qui les a orchestrés. C'est tout Joseph qui est en train de faire quelque chose. Est-ce qu'il veut l'amener sa famille? Je suis sûr qu'il veut avoir la réconciliation. Mais je suis sûr que dans les 20 ans qui ont passé, 22 en fin de compte si tu fais le calcul, les années qui ont passé, on a Joseph qui est en train d'essayer de se réconcilier avec ses frères, avec son père. Il cherche à être avec eux autres. Et on voit comment il est ému à chaque rencontre qu'il a. Ça lui frappe énormément. Il y a des éléments qu'on va regarder dans cette situation qui vont être assez importants. Un, c'est culturel. Si on regarde un peu comment est-ce que... Joseph est rendu plus égyptien qu'hébreu. C'est important de comprendre ceci parce que ça aussi, ça joue énormément dans l'histoire. Joseph, quand il est arrivé, c'était un jeune hébreu. La caractéristique d'un hébreu, c'est qu'ils sont dehors au soleil, le peau est foncée. C'est des gens qui ont beaucoup de cheveux, de barbe. Ils ne sont pas là à se raser tous les matins, là. Les moutons, ils attendent après eux autres. Les autres sont là, les bergers, ils sont dans le champ, ils font leur travail. Les Égyptiens, c'était complètement l'opposé. Dans la structure culturelle égyptienne, le plus haut dans la gamme, ce serait la royauté, le pharaon et sa famille. Le plus bas dans les gammes, les différents rangées, ce serait les bergers. Pour eux autres, les bergers, celui qui s'occupe des animaux, c'est un travail sale. C'est un travail qu'on ne va pas associer avec. On délègue ça à des esclaves. On délègue ça à d'autres mondes. Et justement, eux autres, lorsqu'on pense à des Hébreux et des Égyptiens, ça ne se mélange pas. Pourtant, ils ont bien accueilli Joseph. Et il y avait quelque chose qu'on avait lu. Lorsqu'on regarde Joseph en prison, on va lui chercher pour interpréter le rêve du pharaon. C'est bien écrit. Qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est rasé. OK. Rasé pour un Égyptien voulait dire rasé. Coupe de cheveux comme Danny aussi, OK?
Oh,
all right? Oh non, pas la barbe. C'est tout. C'était tout le corps. Quelqu'un qui était poilu pour eux autres, c'était... c'était pas bien beau. Et c'est intéressant de voir la différence. Que tu veux imaginer quand les 10 frères arrivent en Égypte. Ah, ben, non, c'est les Hébreux encore, les bergers. Oh, wow. Et puis, il s'en va voir Joseph, mais Joseph, c'est plus un berger. Joseph est le premier ministre en Égypte. Il est rendu pas en bas de l'échelle, mais complètement en haut. La seule personne au-dessus de lui, c'est Pharaon. Oui, Pierre.
Ben, il est berger pour sa famille.
Et il est berger pour sa famille. Mais.
Je vais en parler quand je vais mon tour.
Oui.
Il y a un autre travail aussi, c'est que dans les lectures, je vois qu'il est vraisemblable que la dynastie en Égypte à ce moment-là, c'est les Hyksos.
Mm-hmm.
D'accord? C'est une tribu de bergers sémites qui ont fait la conquête de l'Égypte. Et ça pourrait, si c'est vrai, ça pourrait expliquer bien des choses dans le livre d'Exode, par exemple.
Surtout quand tu penses à Pharaon qui veut accueillir Jacob plus tard. On va le voir, justement, ce comportement-là, où il y a quand même respect pour la famille, respect pour le métier. Mais la culture, c'était une où, quand on regarde de Joseph qui accueille ses frères, il fait 3 tablés. Je ne sais pas si vous avez noté ça dans la lecture. Il y a une tablé pour lui, il y a une tablé pour ses frères, puis il y a une autre table qui est pour ses serviteurs. Et il fait un festin pour tout le monde, sauf qu'on est quand même ségrégué, divisé. Et on pense que le racisme, ça, c'est notre problème d'aujourd'hui. Non, c'est le problème depuis longtemps, justement, cette caractéristique-là.
Je pense que si les Égyptiens se rasaient les poils, se rasaient le corps, c'était pour question de chaleur, parce qu'en Égypte, il était très, très chaud. Et quand il fait chaud, tu as les cheveux et tu as les poils en dessous des bras qui transpirent et qui puent.
Ouais.
Et pour...
Ça se peut très très bien. Hein?
Moi je suis sûr.
Culturel.
Peut-être que c'est pas. Ouais. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ouais. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être Joseph. Bon, il n'a pas eu le choix de se raser lui aussi. Mais je pense que Joseph est hébreu en tant que.
Et ça aide aussi à comprendre comment ça se fait que les 10 frères n'ont pas reconnu Joseph. Pour eux autres, là, c'était le premier ministre. C'était pas leur frère.
Et peut-être qu'ils ne le regardaient pas fils comme ça. Ils regardaient tout le temps comme.
Possiblement, mais Joseph les a reconnus.
Oui, mais parce que lui, il pouvait les regarder.
Et la question qu'on se pose quand tu vois quelqu'un après 22 ans, est-ce qu'il a changé ou non? Oui. Joseph avait changé, oui. Ça c'est sûr.
Il a tout écrasé,
17
ans,
22
ans plus tard,
c'est
39, il a changé beaucoup.
Et si on regarde le passage, verset 1, Joseph donne cet ordre à l'intendant de sa maison. Joseph passe à l'action. Joseph a un plan. Et littéralement, je me posais la question, la première fois que j'ai lu ça, et même la dernière fois que j'ai lu ça hier, et je me dis, ça se peut-tu que Joseph a tout un plan si contourné? Il dit, OK, remplis les vivres des sacs des gens autant qu'il en pourra porter, et mette l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Alors, tu peux imaginer, les frères reçoivent toute leur vivre, ils s'en vont, ils sont tous contents, tout est beau, on a été bien reçus, on a Simeon avec nous, on retourne avec Benjamin, Digidou, ça va être fantastique quand papa va nous voir. On aurait été vraiment celui qui a amené le succès. Et on peut imaginer cette situation. Sauf que Joseph, le plan est en marche. Il dit, OK, on les laisse partir. Là, il dit à son intendant, pars après eux autres. Et il dit, là, pourquoi est-ce que vous avez fait ce mal? Parce que l'intendant et Joseph savent très bien que le couple d'argent est dans le sac de Benjamin. Ils arrivent et puis ils arrêtent les frères et ils disent, hey, qu'est-ce que vous avez fait? Ils expliquent comment est-ce qu'eux autres, ils ont volé. Et c'est eux autres qui se sont dit, écoute, comment est-ce qu'on peut être voleur? On a ramené l'argent qui a été retrouvé dans nos sacs du première fois. On a payé pour la première fois. On a payé pour la deuxième. Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir de l'argent? On en a de l'argent. C'est pas ça qui nous manque. Et ils sont en train de dire, et les frères, comme d'habitude, j'espère que vous le constatez, ils sont impétueux, hein? Ils ont dit quoi? Tu peux tuer celui qui a le tasse? Et le couple, et la balance, on va être tes esclaves. Ah, mais hey, dis pas ça. Hey, qu'est-ce que vous pensez que vous avez dans votre poche? Un billet de l'auto 649? Vous êtes si chanceux que ça? Hey, tentez pas le premier ministre avec des paroles comme ça. Hey! Mais il l'a fait. Et ensuite, il cherche chaque sac, il devine. Il trouve le coupe où? Dans le sac de Benjamin. Eux autres sont complètement émerveillés. Comment ça se fait? Et l'intendant dit, je vais le reprendre, lui, comme esclave. Il l'amène. Et les 10 autres suivent. Et quand il arrive à tout cela, Joseph va leur confronter. Comment ça se fait que vous avez pensé que vous pouvez faire un tel coup? Comment est-ce que vous êtes? Et eux autres, là, c'était drôle un peu parce qu'ils doivent être eux autres, vraiment mêlés dans la situation. Un des commentaires que j'ai lu, je trouve ça tellement drôle, il disait que il semble qu'après qu'on se fait jouer un tour ou qu'on revient à la maison avec les sacs de blé la première fois, avec de l'argent, peut-être la deuxième fois, on va demander un reçu. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Être capable de dire, hey, on a bien payé, là. C'est une minute, là. C'est une situation assez spéciale. Et là, Joseph, il dit à ses frères, et je raccourcis ça un peu, mais Joseph, il écoute toutes leurs histoires, puis il leur dit, écoute, vous pouvez partir, mais moi, je garde le jeune. C'est lui qui va être mon esclave. Et eux autres, ils réalisent toutes les négociations qu'ils ont été obligés de faire. On a vu avec Jacob. Jacob ne voulait pas que Benjamin descende. Son dernier petit, son dernier fils de Rachel, pas intéressé de le laisser partir. Enfin, ils sont obligés, ils ont besoin de la nourriture, ils n'ont pas le choix. Ils l'envoient et maintenant, eux autres vont revenir voir papa sans Benjamin. Et là, on a un passage qui est fascinant, verset 18. On a Judas qui s'approche de Joseph. Et il dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en me disant, « Avez-vous un père ou un frère? » Et nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, « Faites-le descendre vers moi et que je voie de mes propres yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur, à l'enfant, ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivre. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous. Nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils. L'un était sorti de chez moi. Je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans les séjours des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts des cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Quand ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant, « Mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme l'esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comme pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point d'affliction de mon père. » Et tu peux voir le scénario, c'est pas un scénario facile, right? Pourtant, Judas, il s'exprime de son cœur. Et je pense que c'est un peu ce que Judas cherchait. Judas cherchait à comprendre, à connaître le cœur de ses frères. Et là, on a Judas qui s'avoue que, écoute, je suis prêt à sacrifier ma vie pour mon frère. C'est pas le Judas qui avait dit, hein, initialement, on va le vendre puis on va faire de l'argent. Et non, 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 c'est plus la même attitude, c'est pas le même cœur.
C'est pas le Judas qui s'était promené en Canaan puis qui avait marié une femme
de Canaan, oui. Ouais. Non, c'est pas ça.
Avec
des
fils,
etc. Eh oui. Et on a ce scénario qu'on a Judas dans un côté qui semble avoir passé 22 ans avec une transformation. Ou est-ce que maintenant, c'est lui qui s'occupe de sa famille, c'est lui qui prend charge, c'est lui qui veut prendre la place s'il faut. Et verset 1 de chapitre 45, Joseph ne pouvait pas contenir devant tous ceux qui entouraient. Il s'écriait, « Faites sortir tout le monde. » Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Le mot « troublé » ici, dans l'hébreu, peut être « troublé », ça peut être aussi jusqu'à « terrifié ». Tellement qu'eux autres, ils ont peur. Et comme je t'ai dit au commencement, pense à tout ce qui est arrivé depuis 22 ans. Et une des choses qu'on est convaincu, c'est que les 10 frères ont gardé silence. Ils l'ont pas avoué à leur père qu'ils ont vendu un esclavage. Ils ont pas, et ils ont défendu l'histoire jusqu'à ce moment ici. Mais comme on a dit tantôt, Dieu sait, Dieu connaît ce qui s'est passé, Dieu sait très bien. Et eux autres, leur conscience leur trouble. Et ici, ils se sont ajustés, c'est parce qu'ils savent très bien que on est dans le chenou. On va être obligé de dire à papa, Joseph est en vie. Et papa va vouloir savoir comment ça se fait qu'il est en vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, tu veux voir, c'est temps de confession. Puis tu veux voir où est-ce qu'on va blâmer Rubin, et puis on va blâmer Judas. Puis ça va faire le tour. Hein. Tout le monde va prendre un débarque à cause de ça. Ils ont peur. Et l'autre affaire qui arrive, ce que Jacques a proposé tantôt, là, c'est que ça se peut-tu que Joseph est en train de dire, maintenant, c'est mon tour de vengeance. Je vous mets tout en prison. Il peut faire bien des choses. Il est le premier ministre. Il a plein droit de faire toutes ces choses. Et eux autres, ils ont peur. Vraiment peur. Mais Joseph, il dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent, il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labeur, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Et je trouve ça fascinant, j'ai mentionné ça à Christiane ce matin en descendant, comment est-ce que Dieu est sur les lèvres de Joseph continuellement. Dieu est avec lui lorsqu'il était esclave. Dieu est avec lui quand il était dans prison. Dieu est avec lui lorsqu'il interprète les rêves. Dieu est avec lui lorsqu'il est premier ministre en Égypte. Et on voit comment est-ce que lui, il sait très bien, à la longue, il a compris, « Seigneur, c'est ça que tu veux pour moi? Amen, je vais le faire. » Et il a pris une attitude de soumission à Dieu. Un qui comprend que Dieu est souverain et que ça vaut la peine. Qu'avec Dieu, les choses vont être bien. Et il avoue ça à ses frères. C'est quand même fascinant de voir justement cette réaction qu'ils ont. Alors, Pharaon, pour raccourcir l'histoire, Pharaon, il sait que quelque chose s'est passé. Joseph va le voir, il explique, ses frères sont venus. Et Pharaon n'est pas louf, hein? Il sait très bien qu'il y a une famine partout. Et il lui dit, va chercher ta famille, ramène-les ici, envoie-eux des cadeaux pour qu'ils puissent avoir le désir de venir, déplace-le et on va leur donner du terrain. Et c'est drôle, entre Pharaon et Joseph, ils semblent avoir un esprit, synchronisé. Parce que Joseph mentionne un terrain à ses frères, Pharaon mentionne un terrain à Joseph, c'est la même place. C'est la meilleure place, le meilleur pâturage. Et ce qui va arriver, c'est que le pharaon va dire, « Hey, si vos frères sont très mal bons, est-ce que tu peux s'occuper de mes animaux? » Moi, ça me donnera plaisir de donner ça en sous-traitance. Et justement, il y a une relation qui est vraiment intime. Comme on dit, on voit une culture qui est vraiment spéciale. C'est comme si Dieu les avait préparés d'avance. Ils s'en viennent et puis Joseph retourne ses frères et il retourne avec Benjamin et avec des chariots pour ramener le père, amener les femmes, amener les enfants et il amène avec des ânes remplis de nourriture, avec des cadeaux, ce qu'ils disent, le meilleur qu'ils avaient en Égypte. C'est-à-dire qu'il veut impressionner Jacob pour qu'il vienne. Et quand les frères retournent, qu'est-ce qui arrive? Jacob ne les croit pas. C'est intéressant, parce que Jacob est comme ses frères, est abasourdi, il ne sait pas quoi penser. Et là, ils disent, regarde le chariot qu'il nous a envoyé, regardez les cadeaux qu'il t'a donné. Et Jacob, il termine avec quelque chose de tellement bien. Il dit, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, ranimait, verset 28, Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Il semble que Jacob est préoccupé avec la mort. Tout tourne autour de lui et sa vie. Hein? Qu'est-ce que tu veux? On était sentimental, on était émotionnel. Jacob est comme ça, oui. Mais lorsqu'on regarde la situation ici, Joseph les a envoyés. Il y a un verset qui m'a beaucoup troublé depuis des semaines. Verset 24. Lorsqu'il les envoie, il dit, il les congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Comment ça les frères vont quereller? Comment ça se fait qu'ils vont argumenter ces
frères? C'est ta faute, c'est ta faute. C'est toi le coupable.
Est-ce que vous avez entendu ce qu'il dit là? Est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Moi j'en ai deux de chaque. OK? Tu connais un peu de quoi est-ce qu'il parle. Qui est-ce qu'on va blâmer, hein? Et comment, qui va l'expliquer à papa? Comment on va l'expliquer à papa?
Regarde, je pense que la personne qui a décidé de le vendre peut dire, moi j'ai décidé, mes frères voulaient les tuer, moi j'ai décidé de le vendre.
Si, il y a le courage, Charles. Ça prend le courage. Alors, moi,
c'est pas grave. Il va sauver sa peau à cause de ça, parce que comme on lui dit, oui, il voulait les tuer. Il a dit non, on va les vendre.
Allez, ah. Ça va être judas. Mais est-ce que vous comprenez très bien la dynamique familiale?
Ouais.
Joseph est 22 ans en Égypte, OK? Il a vu la montagne russe de sa vie en haut, en bas, en haut, en bas. Et là, tout à coup, on réalise très rapidement, il n'a rien oublié au sujet de ses frères. Il les connaît très bien. Il les reconnaît. Et avant de partir, il dit, hey les boys, je vous connais.
Je
ne connais-vous pas. Gardez la paix. Tout est beau. Tout va se régler. Papa va être content. Trompe-toi pas. Et tu peux voir un peu la bénédiction d'avoir cette confession devant papa. Joseph sait très bien que ça va aller bien. Que son père va être content. Et content de retourner avec ses 11 frères à Joseph et descendre en Égypte. Pourquoi? Parce que la paix règne. Parce que le bonheur règne. Parce que Dieu est en train de s'occuper d'eux autres. Well, j'ai quelques minutes à terminer. J'ai passé rapidement les deux chapitres. Et je ne voulais pas vous laisser ça, mais j'ai quelque chose d'autre que je veux vous aller. On a parlé initialement, Charles a parlé la semaine passée, moi j'ai parlé initialement, le concept de réconciliation. Et j'aimerais prendre cette histoire ici, puis simplement vous donner des images de réconciliation que nous, nous pouvons appliquer dans nos vies. Je pense que ça, c'est tellement précieux. Si on pense à ça, qu'est-ce que ça prend pour avoir la réconciliation entre un pécheur et son Dieu, et entre deux pécheurs? Qu'est-ce que ça prend? Pense à ceci, parce que, littéralement, vous avez l'expérience de la vie, vous n'êtes pas né hier, vous avez vu des choses, vous avez vu des bonnes choses, vous avez vu des choses tristes, et vous pouvez dire, quels sont les éléments essentiels pour avoir la réconciliation? Première chose, vas-y.
Hein?
L'humilité, ça c'était le premier moment de ma liste aussi. Yeah. Quoi d'autre?
Être réconcilié avec Dieu.
Et c'est important. Si on n'est pas réconcilié avec Dieu, la réconciliation qu'on va avoir va être partielle, temporaire, mais avec Dieu, ça va être permanent. Ça va être quelque chose d'intègre, sincère. Yeah, avec Dieu. N'autre chose? Il faut vraiment avoir la confiance en Dieu. Et ça, c'est dur à dire à un inconverti. Comment est-ce que tu peux avoir confiance dans un Dieu que tu ne connais pas? Nous, on a le privilège de lire Genèse, de lire tous les livres jusqu'à l'Apocalypse, et de savoir que Dieu est en contrôle, dans le passé, dans le présent, puis aussi dans le futur. C'est tellement important pour nous d'être capable de dire, moi, je peux regarder le Seigneur avec confiance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous savez très bien ce psaume, hein? C'est pas pour rien qu'on fait mémoriser ça aux enfants. Parce que toute leur vie, ça va être un roc sur lequel on peut s'accoter. Le Seigneur est là et le Seigneur veut notre bien. L'humilité. Si tu regardes la vie de Joseph, est-ce qu'il a été humilié? Oh, man. Oh, man. Ah. Avec tout ce qui s'est passé, là, il en a goûté. Il sait comment vivre en bas d'échelle. Il sait comment vivre en haut d'échelle après. Pourquoi? Parce qu'il a bien expérimenté la bonté de Dieu. Et sa humilité est évidente dans la façon qu'il déclare tout et Dieu est avec moi. Et on voit cette notion. L'expérience des frères devant leur père. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais littéralement, les frères ont vécu une humiliation incroyable. Et l'humiliation, je vous présente, c'est l'humiliation qu'on a parlé tantôt, c'est le fait que leur conscience doit leur troubler depuis 22 ans. Avec ce qu'ils ont fait, avec ce qu'ils ont dit, avec le mensonge qu'ils ont raconté à leur père, tout ça, là, ça doit vraiment les travailler. Et on parlait de Judas tantôt, on va regarder sa vie, comme je l'ai mentionné plus tard. Judas a été transformé et je sais que c'est sa conscience qui lui travaille. C'est Dieu qui dit, hey, Judas, pense pas comme ça. Et les 10 autres, je suis sûr qu'ils ont été transformés. Même Benjamin, il faut s'humilier. Il n'y a plus de place pour l'orgueil. Quand on est humble, devine qu'est-ce qui arrive. Il n'y a plus de place pour la vengeance. Il n'y a plus de place. Moi, je pense que Joseph était tellement content de voir ses frères en vie, de savoir que son père était en vie. Il ne cherchait pas à leur faire de tort, de mal. Un autre élément qu'on devrait avoir pour avoir la réconciliation, humilité, c'est le regret. Alors, souvent, on dit « je regrette telle chose ». C'est-tu sincère? Hein? Et ça, c'est une question. Dans Genèse 42, la semaine passée, verset 21, les frères se disent entre eux-mêmes quoi? Qu'est-ce qu'ils disent l'un à l'autre? Oui, nous l'avons été coupables envers notre frère quand nous l'avons vu angoissé de son âme, quand il nous demandait grâce et nous l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. La logique est un peu mal fondée, mais il y a une réalité, n'est-ce pas? C'est eux autres qui ont vendu Jacob en esclavage. Normalement, le vendre en esclavage ne dit pas automatiquement qu'on va être maltraité par le premier ministre en Égypte. Sauf si le premier ministre est quoi? Joseph. Donc, il y avait une vérité dans ce qu'ils ont pensé, n'est-ce pas? Il y avait un regret. Ils réalisent très bien et ils savent, et ils ont beaucoup de temps à y réfléchir. Avec ce regret, par contre, un regret, c'est pas assez. Moi, j'ai souvent eu des enfants qui ont dit « je m'excuse, papa ». Puis, On aime ça les excuses, Christian? Pas vraiment.
Demande pardon.
Demande pardon, et moi je vais dire, qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas faire après? Si tu as vraiment du vrai regret, page blanche, on recommence, on fait quoi? L'opposé. La repentance, c'est un virage 180 degrés. Oui. Le contraire. Est-ce que vous avez bien compris?
Oui.
180 degrés.
Oui.
On va faire l'opposé. Au lieu de faire le mal, on va faire bien. Au lieu de dire des bêtises, on va dire des choses gentilles. Et c'est, avec le regret, il faut avoir une repentance. Devant l'Éternel, lorsqu'on est venu à le connaître comme sauveur personnel, y avait-il du regret pour nos péchés?
Oui.
Mais y avait-il aussi repentance, un désir de tourner le bord et dire on ne fait plus ça?
Oui.
Yeah, c'est justement, tu peux voir, les éléments sont là. L'autre élément qui je trouve tellement rare dans la réconciliation aujourd'hui, on demande pardon, all right, mais est-ce qu'on offre le pardon? C'est facile de le dire. Mais c'est qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va agir? Hein? Le pardon. Matthieu 6, verset 12, Jésus, il enseigne les disciples à leur demande comment prier. Et qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Dieu m'a pardonné les plus grandes offenses incroyables. Moi, j'étais un grand pécheur. Je suis encore. J'ai besoin de pardon de notre Seigneur. Qu'est-ce que ça m'oblige à dire quoi? Moi aussi, je dois pardonner ceux autour de moi. Parce qu'il y en a qui me blessent, il y en a qui me disent des choses qui ne sont pas gentilles, il y en a des gens qui font des choses qui ne sont pas correctes. Moi, je dois les pardonner. Il faut le pardon. Et c'est important, c'est lié avec le pardon de Dieu. Le vrai pardon vient de l'Éternel et nous, on doit quoi? Retransmettre ce même pardon.
Je pense qu'il y a aussi un aspect de reconnaissance qui n'a pas été mentionné. Parce que si tu es reconnaissant à Dieu d'avoir été pardonné, là, ça va t'amener à offrir le pardon aux autres et même à pardonner aux autres.
Et je dirais que cette reconnaissance va nous amener à l'apprécier.
À l'apprécier davantage.
Vraiment comme il faut, davantage, n'est-ce pas? Et quand on pardonne comme Dieu, tant que parler de le pardon que Dieu m'a donné, je ne sais pas vous autres, mais j'ai beaucoup misère avec ce concept ici. Je sais que c'est vrai. Je sais que les Écritures le décrivent. Mais dans Psaume 103, verset 12, l'auteur ici dit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous. » Nos transgressions. Dieu les oublie. Il est capable de le faire. Moi, je ne suis pas capable. Mais lui, il est capable. Nous, on doit faire la même chose. Dans la réconciliation, on va avoir le pardon. Et dans le pardon, va arriver un point où est-ce qu'on va remettre de côté l'offense à un point qu'on va l'oublier. Alors, moi, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné une mémoire exécrable. Moi, j'ai des gens qui sont approchés et ils vont demander le pardon pour des péchés que... Ah, je me souviens même pas de ça. Et je les souris, puis je leur offre le pardon, puis je les embrasse. Pourquoi? Parce que je me souviens pas. C'est arrivé, je suis sûr. C'est parti! C'est ça qui arrive, n'est-ce pas? Dieu veut que nous, on remette, puis qu'on remette comme lui le remet. Lui, il ne revient pas nous représenter. Et vous savez comme moi, on a des arguments. Et c'est pas 3 ans plus tard. Tu te souviens quand toi, tu as fait telle affaire? Ben, c'est pas ça, pardonner.
Oui, on leur demande pardon, mais on n'oublie pas des fois.
Oh, Jacques, c'est tellement vrai, hein?
Ça dépend. Hein? Ça dépend. Pour une femme, ben, je peux te donner... Il y a les cas qu'on peut oublier. Il y a les cas, c'est plus difficile à oublier.
C'est comme très difficile, il y en a, oui.
Un mononcle ou un père qui a abusé.
Oh, yeah. Ça, c'est pas évident, ça.
Ça fait très difficile à pardonner.
Très difficile. Hein?
Ça dépend de la profondeur de la blessure.
Exact. Et d'autres fois aussi, c'est la perception. C'est-à-dire que quelqu'un a une blessure qui était grave, sévère, mais si Dieu m'a pardonné les choses que moi j'ai faites, je dois travailler sur justement pardonner les autres, même quand ça fait mal, même que si moi je suis vraiment... je ne suis pas content. Ça aide beaucoup. Très bon point. Est-ce que c'est réciproque? Non. Mais pour l'enfant de Dieu, ça c'est important, c'est l'enfant de Dieu. Est-ce que c'est réciproque? Pas toujours. Est-ce que ça change les obligations de l'humilité, hein, de regret, repentance? Non. Non. Et d'ailleurs, on peut demander le pardon à quelqu'un et il peut nous ne pas pardonner, pas accepter notre pardon. Et ça, c'est triste. Pas nous offrir le pardon lorsqu'on les doit. Et ça nécessite quelque chose de très important. Et je le mets ici encore en lumière parce qu'on l'a vu dans le passage. Il y a une transformation qui est arrivée dans la vie des gens. Quand on parlait de Judas, il y a une transformation radicale pour qu'il aille se mettre devant Joseph et l'offrir sa vie en échange pour Benjamin. 20 ans avant, il n'aurait jamais fait ça. Mange le col. Non, non. Mais là, ici, là, il y a quelque chose qui a été transformé. Je ne sais pas pour vous autres, mais je sais pour moi. Je soupçonne pour vous autres. Dieu vous a transformé. Vous avez rien qu'à regarder vos vies, puis dire, moi j'étais comme quoi avant, et maintenant je suis comme ici. Est-ce que vous êtes capable de voir la différence? Est-ce que vous êtes capable de voir l'important? Et ça, c'est important. Dans nos vies, le Seigneur nous travaille. La sanctification nous amène à une transformation, un changement de cœur, un changement d'attitude. C'est pas évident, mais ça nous arrive. Et quand ça nous arrive, ça nous prend par surprise un peu. Autrefois, je n'aurais jamais fait ça. Je n'aurais jamais pardonné quelqu'un pour telle sorte d'offense. Et la réconciliation exige un changement, exige une transformation. Et dans le cas des frères, ça a pris 20 ans. Moi, je me demande, dans la vie de Joseph, ça a pris combien de temps? J'aime penser, c'est mon imagination, mais probablement, ça a pris le temps nécessaire pour descendre en chameau, hein, d'Hébron jusqu'en Égypte. Moi, je pense que Joseph a tout vu, les choses changer dans sa vie très rapidement. Et il n'a pas compris le sens, il n'a pas compris tout ce qui arrive jusqu'à temps que ses frères se sont présentés devant lui. Mais probablement, lui, déjà, dans sa vie, il y avait un changement radical. Le petit garçon orgueilleux est devenu quoi? Un esclave humilié. Hein? Yeah.
Et un prisonnier. Et c'était encore pire quand il était prisonnier. Parce que être en prison, déjà que nos prisons, si je compare les prisons modernes et les prisons d'autrefois, les prisons modernes sont comme des hôtels.
Yeah, yeah. Et Pierre.
Moi, j'imagine mal à Joseph être à la maison de Potiphar avec tout le succès qu'il avait, puis l'éternel qui était avec lui, s'il s'adresse son sort, puis il dit c'est, tous mes problèmes, c'est la faute des autres, puis pauvre de petit moi.
Yeah. Ouais. Ça n'a pas sorti de sa bouche comme ça, hein? Non? Justement, là, une transformation. Et c'est important à comprendre ceci. Dans l'application de notre vie, nous, on a besoin d'apprendre les leçons de ces cinq chapitres, de tout ce qui s'est arrivé à ses frères, et tout ce qui est arrivé dans la vie de Joseph, et de dire, Seigneur, est-ce que tu es en train de faire la même chose avec moi? Est-ce que tu es en train de m'amener où ce que toi tu veux? Et je vous assure qu'il est en train de le faire. Veux, veux pas. Dieu va faire ce qu'il veut. Et nous, on est vraiment bien lorsque nous, on arrive à comprendre ceci. Et justement, chercher ce ministère de réconciliation. Je n'ai pas besoin, moi j'ai des amis, des collègues de travail, j'ai de la famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Et notre rôle, c'est quoi? Leur pointer vers, hey, Dieu te demande de t'humilier avec ton péché. Dieu te demande d'avoir un changement et l'opportunité d'avoir le pardon. Et à partir de cette réconciliation, de bâtir notre vie et bâtir la vie de ceux autour de nous. Est-ce que nous sommes comme les fils de Jacob? Et ça, c'est la façon que je termine ce matin. Est-ce qu'on est borné dans nos pensées? Un peu, hein? Est-ce qu'on est incapable de pardonner? Et ça, c'est important. Lorsqu'on regarde une situation, est-ce qu'on est incapable?
Est-ce que Dieu nous demande de pardonner?
Amen.
Est-ce qu'il nous demanderait quelque chose qu'on n'est pas capable de faire?
Très bien dit. Très bien dit, oui.
On peut être capable de pardonner, mais pas de notre propre force.
Ah oui.
La puissance de Dieu.
Amen.
Ça n'est pas de la blessure.
Et on en a besoin.
Plus
moins habitué au profond, plus c'est facile.
Yeah, let's bet.
Amen. Et il a même mis en nous le ministère de réconciliation.
Amen.
Yeah,
c'est notre job.
Yeah.
Et je ne sais pas si vous comprenez, mais ça fait partie de notre obéissance à Dieu. C'est essentiel. Si on n'est pas capable de faire ça, on passe pour les hypocrites. Hein? On parle de l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, mais toi, tu vas payer. C'est pas vrai, ça? Ah. Alors, moi, la question, dernière question, je vous laisse. C'est une question encore piège. Vous êtes prêtes, là? Combien d'années doit-on passer pour avoir comme il le faut la réconciliation dans notre vie? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oh boy! Ça en prend des années, n'est-ce pas? Combien de temps que ça va te prendre pour être capable d'être un réconciliateur? C'est vraiment la question qu'on a dans ce passage. Dieu a fait passer 22 vies d'enfer à Joseph, à ses frères, pour en arriver à un point où ils peuvent s'embrasser et dire, « Hey, ne t'inquiète pas. »
Pourquoi zéro?
Hein?
Pourquoi pas zéro?
Pourquoi pas zéro? Bonne question, Pierre. Je l'ai demandé à Seigneur souvent. Et la réponse, c'est le problème, c'est à moi, c'est pas à lui. Lui voudrait comme d'autres, suite, on tourne. Yeah.
Je pense que la blessure de Joseph, c'est cicatrisé.
Yeah.
C'est une cicatrice. Quand il y a la blessure, la plaie est ouverte.
Yeah.
Et avec le temps, ça se ferme et ça se cicatrise également.
Mm.
Oui,
ça vient d'eux.
C'était le plan de Dieu qui est arrivé.
Yeah.
Mais la cicatrice, quand on fait ça, il a un peu de douleur, c'est extrêmement bon.
Oh, je suis sûr. Tu l'as vu comment c'est émotionnel il était auprès de ses frères. La cicatrice était dure.
Peut-être qu'on a un exemple sur la croix. Quand le bon larron a demandé à Jésus, oublie-moi pas dans ton paradis. Aujourd'hui, moi, tu vas être avec moi. Donc, avec tout ce qu'il avait fait dans le passé, il a pardonné.
Tout ce qu'il avait fait, il était prêt. Ouais. Zéro, Pierre.
Justement,
pas cet interrogatoire. Non, pas cet interrogatoire.
C'est une correction. C'est pas le bon larron, c'est le larron retombé.
Yeah, il est repentant. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous rend bon et acceptable à Dieu, c'est le repentance. Terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as donné les exemples de ces frères. Et Seigneur, on voudra appliquer ces leçons dans nos vies. Tu nous as donné du temps sur la terre pour se réconcilier avec toi en premier. Donne-nous aussi l'initiative d'avoir cette réconciliation entre nous, les membres de la famille, les amis, les gens qui sont autour de nous, qui ont peut-être nous ont blessés, ou peut-être nous, on les a blessés. Seigneur, aide-nous à remettre les choses en bon ordre, comme toi tu as fait avec ton Fils sur la croix, qui a payé pour nos péchés, qui nous a donné sa justice. Seigneur, on te remercie pour ces choses. On demande de bénir notre adoration qui vient. Nous demandons ces choses pour le nom de Jésus. Amen.
Amen.